Moi, c'est André de Mbujima, locataire oriental. Je réfute totalement ce que
tu... Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Voilà, très heureux de vous retrouver à nouveau dans ce nouveau numéro des Paroles aux Auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur la fréquence de la paix. Le 24 février 2021 dernier, il a été célébré le 8e anniversaire de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région du Grand Lac. En marge de cette célébration, le président du cadre de concertation nationale de la société civile a regretté que 8 ans après sa signature sur le terrain, il se constate encore des atrocités causées par des groupes armés, faute de manque de volonté de certains États de la région d'appliquer ces textes. Alors comment réagissez-vous par rapport à cette position du cadre de concertation nationale de la société civile? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 63 30 ou encore au 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct. Vous êtes nombreux à avoir lu et commenté ces sujets. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats et nous pensons qu'on passera le 57 minutes interactives avec joie ensemble avec vous ici au pays et à l'étranger. Polydor Basunga assure la production de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Andji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Je reçois pour échange dans ces studios Monsieur Emery Madifouta. Vous êtes pasteur, pasteur Emery. Merci d'être venu dans nos studios.
Merci, monsieur le journaliste.
Alors, vous êtes team leader de la thématique sécurité au niveau du cadre des concertations nationales de la société civile et en même temps directeur exécutif de l'ONG Solidarité pour la sécurité et la gouvernance. Et plein de qualificatifs. Bon, en tout cas, on ne saura pas tout prendre. Mais en tout cas, vous êtes également membre des réseaux de la réforme du secteur de la sécurité et de la police et tant d'autres. En tout cas, merci d'être venu une fois encore nous honorer dans ce studio. Alors, d'entrée de jeu, l'accord cadre d'Addis Abeba tient encore la route aujourd'hui. Est-ce que ça vaut encore la peine de parler de l'accord cadre d'Addis Abeba?
Oui, messieurs les journalistes, ce qu'il faut remémorer d'abord ici, c'est quoi l'accord cadre? L'accord cadre, c'est une sorte de feuille de route, que j'appelle moi une feuille de route, suite à la situation d'insécurité récurrente, à la situation chaotique qui traversait notre pays d'il y a plus d'une décennie. Et le pays africain au sein de l'OIA, le pays des nations membres des Nations Unies, et assisté même de l'Union Européenne, ont trouvé que non, il fallait mettre fin à cette situation d'insécurité. Il fallait que la RDC puisse décoller. Je ne voudrais pas ici, n'est-ce pas, réduire l'accord cadre au niveau d'un seul pilier qui est la sécurité, mais aussi d'autres piliers que je vais développer tout au long de notre discussion. Donc, l'accord cadre devient une feuille de route qui pourrait faire décoller, booster le développement de ces pays avec l'appui de la communauté internationale.
Donc il est encore d'actualité.
Il est encore d'actualité. Nous tournons à rond, je dis bien, parce qu'on n'a pas su s'approprier de cet accord. Si on pouvait s'approprier de cet accord, je pense qu'aujourd'hui, on ne parlerait même pas de toutes ces réformes auxquelles nous faisons allusion, puisque l'accord cadre, c'est un accord holistique qui a emprunté une approche holistique, qui a pris en compte toutes les dimensions, tous les secteurs de la vie auxquels notre pays faisait face et fait encore face aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que l'accord cadre est encore d'actualité.
Alors, quand vous parlez de l'appropriation, oui. Qui devait s'approprier de cet accord? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt parler de l'application? Faute d'application, cet accord souffre.
D'abord, appropriation. Appropriation pourquoi? Après la signature le 24 février 2013, au niveau du pays, le président de la République a pris une ordonnance pour mettre en place le mécanisme national de suivi en nommant un coordonnateur national, mais aussi en nommant un haut représentant pour le mécanisme conjoint au niveau régional et sous-régional. Maintenant, Le politique, ici, il faut voir les institutions. Nous prenons la présidente de la République, nous prenons le Parlement avec les deux chambres, nous prenons le gouvernement, les cours et tribunaux. Toutes ces institutions devaient s'approprier de cet accord. Et là encore, les administrations techniques, sectorielles, devaient s'approprier de cet accord. Parce que cet accord prend en charge la dimension sécuritaire, la dimension justice, la dimension renforcement de l'autorité de l'État, la dimension décentralisation, la dimension accès aux services sociaux de base et infrastructures, la dimension réforme institutionnelle, y compris les finances publiques, mais aussi la dimension progrès en ce qui concerne la démocratie, la tolérance ainsi que la réconciliation. Et en voyant tous ces piliers, monsieur le journaliste, si on devait s'atteler à cela, vous comprenez, aujourd'hui, on serait très loin. Très loin, pourquoi? Parce que l'accord cadre, dès que le président de la République a mis ces mécanismes en place, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu la déclinaison, l'accord cadre a été décliné en critères et indications et indicateurs de suivi, concrétisé par les différentes activités à réaliser au niveau de chaque secteur, le secteur dont je venais d'énumérer. Mmh. Mais malheureusement, l'autorité s'est arrêtée là-bas. Il y a encore quoi? Au niveau de interne ici, nous avons souscrit à 6 engagements. En souscrivant à cet accord cadre, nous avons considéré les 6 engagements comme étant internes. Ce sont ces 6 engagements qui pouvaient nous aider à booster le développement et à balayer l'insécurité dont nous connaissons à l'Est. Il y a l'engagement 1 qui parle des réformes de la sécurité dont la police et l'armée, les services de sécurité, la justice. Il y a l'engagement 2 qui parle aussi des renforcements de l'autorité de l'État. Il y a l'engagement 3 qui parle des progrès réalisés sur la décentralisation. Il y a l'engagement 4 qui parle de l'accès aux services sociaux de base ainsi que les infrastructures socio-économiques. Il y a l'engagement 5 qui parle des réformes institutionnelles ainsi que les finances publiques. Il y a l'engagement, n'est-ce pas, 6 qui est un engagement que je dis bien un engagement clé sur le progrès à réaliser concernant la démocratie. Mais malheureusement, concernant l'engagement 1, en rapport avec la sécurité, la réforme de la police, où nous en sommes? Il y a la loi, capitale.
En ce qui concerne la réforme, est-ce que c'est pas un problème d'argent? C'est pas un problème d'appui? C'est pas un problème de moyens?
Vous répondez déjà à la question. C'est un problème de moyens, bien sûr, mais d'abord de volonté politique, d'engagement politique, d'appropriation. C'est ce qui nous a manqué. Parce que s'il y a cet engagement-là, il y a cette appropriation-là, les moyens vont suivre. Ça va de soi. Mais malheureusement, on signe des accords, on prend des textes au niveau interne, mais ces
textes-là... Même au niveau international, il y a des résolutions du Conseil de sécurité qui demandent aux Nations Unies de pouvoir accompagner la RDC dans ses réformes.
Bien sûr, un des engagements au niveau international dit quoi? La communauté internationale reste regardante, n'est-ce pas, à ce qui concerne la situation de la RDC. Est-ce qu'elle est restée inactive? Je ne pense pas. Parce que nous avons vu avec vous lors des élections de 2018.
L'engagement de la MONUSCO, l'engagement des agences des Nations Unies. Plus, notamment avec le programme PASEC.
Exactement. Et il y a une chanson qui dit, mais la MONUSCO est là, ça fait longtemps, qu'est-ce qu'elle fait? Mais la MONUSCO, c'est la communauté internationale qui vient en appui. En appui à ce qui est à nos propres capacités. Si au niveau interne, nous ne sommes pas organisés, ou au niveau interne, nous ne donnons pas de moyens, et nous ne mettons pas de moyens pour, par exemple, la police, pour l'armée, et pour les autres services de sécurité, que voulez-vous que la MONUSCO fasse? C'est pour dire que la communauté internationale est consciente et elle est...
A joué sa partition? Et il fallait à l'État aussi
à
de jouer
l'État
la leur.
Congolais, à l'État congolais. Parce que tous ces engagements auxquels je fais allusion sont restés en quelque sorte lettres mortes. Parce que la mise en œuvre n'a pas été effective. La mise en œuvre n'a pas été effective. On dit bien mécanisme national de suivi et d'évaluation.
Il y a eu tentative des réformes au niveau de la police, parce qu'on avait l'inspection de la police et on est passé au commissariat. Bon, finalement, il y a beaucoup de choses qui ont quand même bougé de ce côté-là.
Oui, au niveau de la police, nous pouvons parler de trois textes fondamentaux.
Hein? Les statuts portant.
Oui, il y a la loi portant organisation et fonctionnement de la police, la loi portant statut particulier du policier de carrière, et puis il y a aussi la loi de programmation pour la mise en œuvre de la réforme de la police en termes de moyens financiers et d'investissement, de fonctionnement. Mais à ce niveau-là, à part les textes, je vous dis que les moyens n'ont pas suffi.
Sur le terrain,
il n'y a rien. Ah. Et la police continue à fonctionner avec des moyens traditionnels. Ce n'est pas le frais de fonctionnement que vous donnez au commissaire général pour acheter des papiers et consorts qu'il va faire face.
Ça, c'est le premier engagement qui pose problème chez nous.
Ça pose
problème. Deuxième engagement, renforcement de l'État.
Renforcement de l'État. Le symbole de l'État, partout, quand vous circulez dans les pays, c'est quoi d'abord? C'est la présence d'un policier. C'est la présence des militaires dans les frontières. Mais vous pouvez faire des milliers de kilomètres à l'intérieur aujourd'hui.
Dans
le Congo profond, vous ne verrez pas un policier.
Il y a
un problème d'effectif, de la formation, de la professionnalisation même de la police, de la professionnalisation de notre armée. Même si nous disons qu'aujourd'hui, notre armée monte en puissance et consort. Mais il faut écouter les cris de ceux qui sont sur le terrain aussi. Vous comprenez? Et la guerre continue. Les groupes armés, par-ci, par-là, il y a cette prolifération des groupes armés. Pourquoi? Parce que au niveau interne, l'armée n'est pas... Je ne dirais pas que l'armée n'existe pas, mais l'armée est là, mais avec quel moyen?
Alors, on sait que les tableaux que vous présentez, le Congo n'a pas pu s'approprier de cet accord. Raison pour laquelle aujourd'hui on a du mal à terminer la guerre qui sévit dans l'est de la République.
Exact.
Mais il n'a pas été le seul signateur de cet accord avec ses voisins. Mais qu'en est-il avec les voisins? Parce que vous l'avez vu, votre cadre de concertation a fustigé l'indifférence des voisins.
Oui, vous avez raison, monsieur le journaliste. Mais qui a d'abord intérêt pour stabiliser notre pays? C'est d'abord nous-mêmes. Vous comprenez? Je ne sais pas à quel pourcentage les groupes armés qui sont par-ci par-là appartiennent aux seuls Congolais. Mais il y a aussi des pays voisins. Mais l'engagement, un des engagements au niveau régional dit quoi? Empêcher les pays voisins d'alimenter, n'est-ce pas, les groupes armés à déstabiliser la RDC.
Donc notre armée doit être en ordre de bataille.
En ordre de bataille. En ordre de bataille. Dans
pour
ce
sécuriser
sens
les frontières.
Exact, exact. Dans ce sens que si nous sommes en ordre de bataille, mais le groupe, le pays voisin auront peur de nous.
Les EDF, les FDLR.
Mais vous savez combien nos frontières sont perméables aujourd'hui. On entre par où? On entre n'importe où. On déstabilise n'importe où. Nos frères et sœurs aujourd'hui sont massacrés à tout moment, à l'intérieur de notre pays même.
Et
vous comprenez?
Et s'il y a ce manque de volonté de la part de voisins, que voulez-vous? Parce que aujourd'hui, c'est vrai, notre armée a des problèmes, notre police a des problèmes, et les voisins, ils n'ont pas sous embargo, la plupart, ils s'arment très fortement, et ils viennent nous insécuriser.
Oui, c'est là où intervient aujourd'hui la nouvelle approche avec le régime que nous avons en place aujourd'hui. Cette nouvelle approche d'approcher, n'est-ce pas, les pays voisins.
Aller en bilatéral.
Bilatéral. Vous comprenez? Avec des projets.
Trois fois, nous avons vu les chefs de l'État aller rencontrer son homologue.
Exact. Ça, c'est une des meilleures approches. Mais il ne faut pas que les chefs de l'État ou bien nos autorités restent naïves. Non. On doit maintenant aller plus loin. Plus loin que cela. Ça signifie quoi? Ces voisins doivent nous garantir. Il ne suffit pas seulement de rencontrer un voisin en bilatéral et puis de bavarder, de causer, vous et c'est tout. Non, il faut aller plus loin avec la diplomatie. Il faut renforcer cela. Il faut s'assurer que le voisin qui a promis qu'il ne va pas appuyer le groupe voisin, les groupes armés, il est en train d'appliquer ça, de mettre ça en œuvre.
Voilà,
autrement, ça resterait seulement...
Pasteur Emery Madifouta, vous êtes de la thématique sécurité au niveau du cadre des concertations nationales de la société civile. Nous vous gardons avec nous le temps d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs qui ont commenté ce sujet et qui ont émis le vœu de pouvoir le partager directement avec nous dans cette émission 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Ingénieur Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bonne arrivée.
Bonjour, monsieur J.R.
Alors, ingénieur Gaston, vous venez de suivre notre invité qui dit les vrais problèmes pour l'application de l'accord d'Addis Abeba 8 ans après. C'est le problème d'appropriation d'abord au niveau interne de la RDC et l'indifférence des États voisins se justifie dès lors que on a des problèmes de sécuriser notre frontière à nous-mêmes, et ce qui fait que nos frontières étant poreuses, et ça permet même à ceux qui sont à l'extérieur de venir nous insécuriser. Comment réagissez-vous?
Merci beaucoup pour la parole, monsieur JR. Je pense que notre invité a été très strict avec notre propre pays, et là je suis pas d'accord avec lui. Tout ce qu'il a décrié demande qu'il y ait la paix d'abord. Tous les aspects développement et ça, ce sont des accès secondaires. L'aspect sécuritaire compte surtout. On ne peut pas organiser des réformes quand le pays n'est pas en sécurité. Ce que moi j'avais décrié, parce que j'ai la chance de lire quelques lignes de l'accord depuis sa signature, et que l'accord n'a pas donné de contraintes aux pays signataires. Le problème aujourd'hui, JR, c'est les pays voisins qui nous dérangent. On doit appeler les chats par son nom. Tous ces groupes armés qui sont alimentés par des pays voisins, notamment les Rwanda, l'Ouganda, les Burundi, ça doit être dit. Comment nous devons entreprendre des réformes dans notre armée pendant que nous sommes infiltrés par ces gens-là? Les Rwanda réclament de venir chercher les interahamwe chaque année dans notre pays. Ces interahamwe ne finissent jamais. Et quand les Rwanda traversent le pays, on ne sait pas. Ils sont à combien quand ils sont alertes? On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont rentrer. Et ils commettent des bavures au vu et aux yeux de tout le monde. La Moscou, parce qu'il a dit que la Moscou nous vient en appui. La Moscou ne fait pas son travail. Et c'est de balader aujourd'hui les micros à travers le pays. Je vous dis, monsieur JR, vous trouverez que 99% des Congolais réclameront le départ de la Moscou. Pourquoi la Moscou, qui est dotée, ils ont l'armement, il y a un nombre efficace de ces gens ici au pays. Ils sont là, ils observent. Ils ne sont pas venus combattre, ils sont venus nous appuyer. Donc, toutes les réformes dont notre invité parle n'ont pas leur place quand nous sommes infiltrés. Nous sommes à Kinshasa ici. Je vais vous citer quelques autorités qui sont des gardes du corps rwandais. Vous voyez les gardes de M. Roubaix. Ce sont des Rwandais tous. Je les appelle par leur nom. Ils circulent ici à Kinshasa. Notre armée est infiltrée. Je peux vous citer quelques 4, 5, 10 généraux dans notre armée qui sont des Rwandais. Et comment voulez-vous qu'on entreprenne des réformes pendant qu'on est infiltré même au sein de l'armée? Donc je ne suis pas d'accord.
Si je comprends bien, ingénieur Gaston, à ce stade, il est vraiment impossible que l'accord d'Addis Abeba soit appliqué.
Il n'est pas impossible avec la venue du chef de l'État Félix au pouvoir, comme il préside maintenant l'Union africaine. Je pense que c'est parmi les questions qui doivent le tenir à cœur. Partout où il passe de la sécurité. Félix est un enfant du pays, il connaît très bien le Congo, il a le sang congolais, nous le savons, contrairement à ce qu'on reprochait à ceux qui étaient là. Et je pense qu'il doit, c'est un devoir pour lui, s'il veut qu'on retrouve la paix au pays, il doit opposer des contraintes aux pays comme les Rwanda, l'Ouganda, tous ces groupes armés-là, les ADF, les ADF. Ils ne sont pas des rébellions congolaises, c'est des rébellions. ADF, c'est une rébellion ougandaise, mais qui ne commet des bavures qu'au Congo. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas.
Voilà. Merci beaucoup, ingénieur Gaston, d'avoir appelé. On va prendre Amos, qui est à Bukavu. Amos, bonne arrivée. Amos, vous êtes avec nous? Voilà, on prend plutôt Fidèle Ayou. Fidèle Ayou est, disons, spécialiste en résolution des conflits. Alors, monsieur Fidèle, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là, Gère.
Alors, aujourd'hui, c'est vrai, vous avez suivi Pasteur Emery Madifouta, qui est le cadre des concertations nationales de la sécurité, de la société civile. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, par rapport à ce que vous avez comme impression sur les problèmes que traverse l'application de cet accord lorsque notre invité évoque le manque d'appropriation au niveau local et l'indifférence des pays voisins. Que dites-vous?
Oui, je crois que l'invité a raison. L'accord lui-même, si vous regardez, il y a la multitude des acteurs et la multitude des questions à résoudre, qui dans un pays comme le Congo ne devait pas prendre cette approche ici. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Vous avez des questions à résoudre au niveau national, et puis des questions à résoudre au niveau régional, des questions à résoudre au niveau des acteurs internationaux. Ces trois grandes étapes, ces trois grands acteurs ont fait que cet accord était devenu très compliqué à mettre en pratique. Donc, l'accord lui-même a été déjà, est venu avec ses ingrédients de défaillance, je pourrais le dire. L'appropriation, je crois qu'au niveau du pays, comme l'a dit l'invité, il y a eu quand même des démarches qui ont commencé dans toutes les réformes qu'on a demandées.
Oui, on a créé les MNS, les mécanismes nationaux de suivi. Voilà. Mais quand nous allons au Rwanda ou encore au Burundi, on se rend compte que bon, finalement, il n'y a pas un mécanisme mis en place et les cadres de concertation pour résoudre cette question, c'était simplement le CRGL.
Oui, oui. Et puis, donc ça a encore compliqué l'implémentation de cet accord ici. L'autre problème que l'invité a souligné, et puis le pasteur Madifout l'a dit, au niveau de la sécurité, au niveau des belligérants qui ne sont pas congolais, qui viennent de l'extérieur, la grande question jusqu'à présent, et qu'est-ce que vous faites si vous arrêtez les gens de FDLR? Qu'est-ce que vous faites avec les ADF? Vous les amenez où? Parce que l'Ouganda refuse, il ne les prend pas. Le Rwanda ne le prend pas. Donc, il reste entre les mains du Congo. Et c'est là où je suis d'accord avec l'invité quand il parle de l'appropriation. C'est-à-dire, le Congo se retrouve avec tous ces gens entre ses mains, ne sachant quoi faire. Quand vous les poussez, disons l'armée repousse les FDLR, repousse les ADF, il les repousse où? Parce que l'armée ougandaise se poste aux frontières et refuse que les ADF soient repoussés en Ouganda. L'armée rwandaise refuse que les FDLR, une fois repoussés du Congo, rentrent au Rwanda. Donc nous nous retrouvons avec, comme l'a dit un belligérant là, Kony l'a dit quand on lui a posé la question sur pourquoi est-ce qu'il est en train de se battre. Il dit, écoutez, nous sommes partis en chasse avec Museveni pour aller chasser les lions. Alors, on a attrapé les lions, moi j'ai attrapé les lions par la queue, il devait tuer les lions, mais il a fui, il m'a laissé avec les lions. Donc j'ai continué à me battre avec les lions à la queue. Donc c'est l'imagerie du Congo où on se retrouve avec un accord comme un lion qui est trop grand pour nous seuls d'exécuter et nous avons les lions entre nos mains, si on le lâche, il nous tue. Et on n'a pas de moyens, le pays n'a pas ces moyens-là, ces capacités-là au niveau de sécurité, l'armée n'est pas à mesure de toutes ces grandes armées.
On peut prendre ce courage de dire que cet accord n'est plus d'actualité au regard de l'évolution politique?
Exactement. Et dans l'analyse des conflits, nous avons toujours dit, quand il y a des accords, il faut toujours les adapter selon le contexte. Quand le contexte change, vous innovez, et puis vous revenez encore à la table avec tous les négociants pour revoir l'accord, et puis l'adapter au contexte actuel. Le contexte d'Addis Abeba a beaucoup changé. Donc, nous sommes dans un autre contexte avec un autre président. Il y a des questions de souveraineté qui se sont posées hier, en termes de souveraineté avec Kabila, qui ne sont pas aussi les perceptions du président actuel. Mm-hmm. Et puis maintenant, nous avons l'Union sacrée, Le Parlement a changé. Donc, on doit s'asseoir encore pour voir, surtout les questions de souveraineté nationale, quel est le concept, comment est-ce que le président Tshisekedi voit les questions de souveraineté nationale, et puis adapter cela dans nouveau contexte politique.
Voilà. Alors, Fidèle, je vous garde en ligne le temps de retrouver ingénieur Valérie. Ingénieur Valérie, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour, Pierre, bonjour aux auditeurs de la radio Capi, ça fait longtemps.
On va très 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 longtemps. Nous sommes très heureux de vous retrouver, hein, en tout cas avec nous dans cette émission, parce que vous avez été parmi les premiers auditeurs depuis 2009 lorsqu'on a créé cette émission. Alors d'entrée de jeu, vous avez suivi notre invité qui parle de l'appropriation qui pose problème au niveau interne et Fidèle Ayou Lumeya qui est un des spécialistes en résolution des conflits qui explique comme tous les autres que effectivement cet accord d'Addis Abeba ne doit plus être d'actualité par rapport à notre contexte politique.
Oui, il a tout à fait raison. D'abord, je dois dire que cet accord, moi, je n'y ai jamais fait confiance. Vous savez que souvent, les Africains font du théâtre politique. Ils déplacent les problèmes au lieu de les résoudre. N'oubliez pas que c'est un accord qui a été signé sous le régime Joseph Kabila, un régime qui n'avait rien à apporter au peuple congolais, si ce n'est la distraction. Aujourd'hui, c'est comme vient de le dire l'auditeur de tout à l'heure, que je salue bien. Malheureusement, je ne sais pas si le nom comme...
C'est Fidèle. C'est Monsieur Fidèle. Fidèle Ayou Lumeya.
Oui, Monsieur Fidèle, oui. Je félicite son argumentaire. Il faut vous dire que, comme je viens de le dire, on ne fait que déplacer les problèmes. En réalité, et les régimes passés et l'actuel, je ne vois pas les efforts qu'ils font pour mettre fin à cette guerre, si ce n'est que des efforts médiatiques. Comment voulez-vous que aujourd'hui nous sommes en train d'enrichir les pays voisins, y compris même certains pays européens et même américains? C'est une guerre de minerais, c'est une guerre des multinationales qui relève de l'économie d'exploitation, c'est-à-dire au lieu que les gens montent des usines.
Alors, on a des petits soucis avec votre ligne. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu? On va voir si la ligne va s'améliorer. La communication pourrait s'améliorer.
Ça va un peu?
Bon, pas tellement.
Pas tellement. Bon, ici maintenant ça va.
Voilà, on a vraiment des petits soucis. On est désolé.
Ça va maintenant.
On ne saura pas vous garder avec cette qualité qui laisse à désirer. On va poursuivre avec Amos. Amos, vous êtes à Bukavu. Bonjour Amos. Amos, vous êtes avec nous?
Bonjour Capi. Bonjour à l'invité.
Oui, quelle est votre réaction Amos?
En fait, la première question à se poser, jusqu'à quand la RDC va continuer à pleurnicher comme un petit bébé? Parce que vous allez comprendre avec moi, JR, que dans toutes ces assises qui amènent à la signature de ces accords, la RDC y va toujours à genoux. Moi, j'ai suivi que le président des cadres de concertation de la société civile au niveau national a démontré que non, il n'y a pas de volonté de nos pays voisins ou des pays de la région pour que finalement on mette fin à l'activisme des groupes armés, surtout en RDC. Mais moi je pense que tant que la RDC ne sera pas un État réellement souverain, nous ne cesserons jamais de crier. Et nos voisins savent nos faiblesses. La RDC d'abord devait commencer à s'organiser au niveau interne.
Mais Amos, nous sommes un État souverain depuis 60.
Et non.
Nous avons accédé à la souveraineté depuis 60.
Mais pratiquement non, parce que je l'ai toujours dit, il y a trois éléments pour qu'un État soit réellement un État souverain. Il y a sa puissance, et quand je parle de la puissance, je vois l'organisation de l'armée, de la police, c'est-à-dire de tous les services de sécurité. De deux, il y a son économie. De trois, il y a sa diplomatie agissante. Et les trois éléments, là, jusqu'à la RDC, n'est pas capable de les réunir. En dépit du changement que je continue à qualifier de changement de façade qu'on a connu en 2018, jusque-là, plus de deux ans après que le président Félix est au pouvoir, on n'a pas encore réuni ces trois éléments. Et c'est pourquoi je vous dis, tant que nous n'y parviendrons pas, nous serons toujours en train de pleurnicher et nos voisins nous maîtrisent très bien. Il faut d'abord analyser même ce que Béa est parti dire au Rwanda et les contradictions qu'on a connues avec Kabound. Ce qui démontre à suffisance que nos voisins nous connaissent très bien et ils savent nos faiblesses, voilà pourquoi, même si on peut aller dans 10 000 assises, on signe des accords, Mais quand nous serons toujours désorganisés au niveau interne, quand nous serons irresponsables au niveau interne, rien ne marchera, JR.
Merci beaucoup, Amos, d'avoir appelé 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, JR Lungembu.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs qui entament cette deuxième demi-heure de l'émission avec notre invité pasteur Emery Madifouta, team leader de la thématique sécurité au niveau du cadre des concertations nationales de la société civile. Pasteur Emery, vous avez suivi les uns les autres. Hein. Alors, c'est vrai, d'autres, les uns ont évoqué que cet accord n'est plus d'actualité. D'autres, par contre, vous ont soutenu également en disant qu'il est réellement d'actualité et qu'il va falloir faire quelques réajustements. Alors, quelle est votre réaction?
Oui, merci, monsieur le journaliste. Je remercie nos auditeurs et cela montre l'intérêt que nous avons pour notre pays à être stable. Et d'abord, avec l'ingénieur Gaston, l'ingénieur a raison, il met au centre la paix. Nous devons d'abord faire la paix. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Et comment on peut préparer cette paix? Comment on peut avoir cette paix si en interne on n'est pas organisé? Si en interne on n'est pas fort? Si en interne on n'a pas de moyens conséquents pour faire face, n'est-ce pas, à ce qui peut venir de l'extérieur?
Donc le MNS seul ne suffisait pas pour résoudre ce problème.
Non.
Le mécanisme national, alors à quoi ça sert encore les mécanismes?
Non, le mécanisme national c'est une capacité d'alerte, de suivi et d'évaluation. Il faut maintenant pénétrer le contenu de cet accord. Il y a trois dimensions qu'il faudra comprendre. Il y a la dimension interne qui sont les engagements nationaux, il y a la dimension externe qui sont des engagements régionaux et la dimension externe encore plus loin qui sont des engagements internationaux. Et moi je mets l'accent plus sur la dimension interne, pourquoi? Parce que si dans votre maison vous n'êtes pas organisé, mais c'est facile que les voisins puissent venir vous déstabiliser d'une manière ou d'une autre. Mmh. Et vous ouvrez la porte à l'ennemi. Donc commencez d'abord à vous organiser à la maison.
Oui, parce que vous allez poursuivre l'étape peut-être d'accueillir le ministre honoraire, Clément Kankou, qui est un politique.
Oui.
Peut-être un regard politique, ça pourrait nous aider. Alors, monsieur Clément Kankou, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là, oui.
Alors, bonjour. Aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde dit, va dans le sens que finalement, l'accord d'Addis Abeba n'est plus d'actualité. Et les autres vont encore plus loin pour dire, il va de la responsabilité du gouvernement. Parce que finalement, les institutions ne se sont pas appropriées de cet accord. Est-ce que vous partagez cet avis?
Je crois qu'il y a un sérieux problème au niveau de cet accord, hein. Le gouvernement congolais a fait montre de bonne foi quand on a signé cet accord, mais malheureusement, je pense que nous avons été abusés par nos voisins qui n'ont jamais respecté leurs engagements. De ce fait, nous devons comprendre que les causes de cette guerre sont des causes qui sont à la fois exogènes et endogènes. Nous devons nous rappeler que c'est une guerre qui nous est imposé tout simplement pour des intérêts économiques. Il faut se rappeler de ça. Pourquoi nous avons des raffineries en Ouganda qui vendent l'or qui vient de l'Ituri, qui vient du Congo? Pourquoi nous avons des raffineries au Rwanda qui vendent le coltan qui vient du Congo? Donc à la fois le problème est à une source extérieure, comme vous le savez, des pays voisins qui sont suffisamment engagés dans cette guerre parce qu'ils l'ont créée, ils continuent à l'entretenir en créant des milices armées, et comme par hasard, il n'y a jamais de problème avec les milices qui attaquent le Rwanda ou l'Ouganda, c'est toujours au Congo que ça se passe. Donc les Congolais doivent à un moment prendre leurs responsabilités devant des voisins qui sont à la fois hypocrites et de mauvaise foi pour mettre un terme à ce massacre. Nos populations ont suffisamment souffert depuis plus de 20 ans à cause, je dis bien, des voisins et aussi de leurs parrains qui sont de l'autre côté, les grandes puissances qui soutiennent certaines puissances, ou multinationales plutôt, qui soutiennent ce pays. Mais aussi, nous ne devons pas oublier que le problème que nous avons, c'est un problème interne. Nous avons, avec une armée qui a parfois à la tête des gens qui ont suffisamment montré qu'ils n'étaient pas capables
de faire le travail qu'on leur demande. Ils excellaient plus dans le commerce, dans autre chose, et eux aussi impliqués dans le trafic illicite, dans l'exploitation illicite. Donc, le gouvernement actuel, c'est politique, oui, parce que le gouvernement actuel doit prendre des résolutions et les grandes réformes doivent se faire au niveau de l'armée, ne pas se gêner à nettoyer ceux qui n'ont suffisamment, qui ont montré qu'ils n'étaient pas capables de ramener la paix dans ce pays, qu'ils étaient incapables de sécuriser le pays. Ce sont les mêmes qui sont suffisamment cités dans certains rapports des Nations Unies. Et donc, au niveau politique, oui, je suis d'accord qu'il y a un problème au niveau politique et le gouvernement doit prendre ses responsabilités au niveau du pays pour que les services de force, de défense et de sécurité soient suffisamment réformés pour être suffisamment efficaces afin de répondre aux besoins sécuritaires dans notre pays.
Alors, oui, c'est un problème politique qu'il faut gérer politiquement. Alors, vous, en tant que politique, est-ce que vous pensez que cet accord est encore d'actualité? Ou il faut passer à autre chose?
Vous savez, un accord ne peut se justifier que s'il produit des fruits. C'est un accord qui, depuis le début, n'a été comme qui dirait qu'un cercle vicieux. On a tourné le Congo en bourrique dans cet accord. Il n'y a que le Congo qui a suffisamment montré que nous voulions la paix. Le Congo a accepté même de voir revenir dans ce pays les M23 et tous ces autres milices qui ont semé la mort et la désolation dans notre pays, mais quid des autres, les FDLR, les ADF Nalu, pourquoi les autres pays voisins n'acceptent pas que ces gens retournent chez eux? Pourquoi il n'y a pas de mécanisme réel et sérieux mis en place pour que ces FDLR, comme je suis vu dernièrement, les FDLR dire qu'ils n'ont pas tué
l'ambassadeur,
et ils ont même donné leur position. Imaginez-vous! Ce sont des forces étrangères.
Ils réagissent par rapport à une position prise. Oui, ils ont réagi par rapport à la déclaration du gouvernement congolais.
Mais ils réagissent en disant qu'ils sont au Congo. Les FDLR, ils réagissent en disant qu'ils sont, voilà leur position, au Congo.
Mais parce que la position, les positionnements...
aussi bien par les multinationales et l'hypocrisie de la communauté internationale, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Monsieur Clément Kankou. Nous rappelons que vous êtes ministre honoraire et également député en son temps, dans la deuxième législature. Voilà.
Donc je pense que pour terminer, moi, il faut qu'il y ait une grande. Je ne parlerai pas de conférence, mais il faut que les Congolais se mettent ensemble, qu'on parle. Il y a trop d'hypocrisie, aussi bien au niveau de nos services de sécurité, aussi bien au niveau des politiques que nous sommes et nous devons mettre la communauté internationale devant ses responsabilités et surtout, je pense, revoir la nature de nos relations avec ces pays qui continuent
à pratiquer. Pourquoi pas l'organisation d'une conférence nationale sur la sécurité où on impliquerait toutes les couches sociales pour en discuter sous forme d'une consultation. Merci beaucoup, Monsieur Clément Kankou, d'avoir été des nôtres, en tout cas, pour ces débats. On va poursuivre, en tout cas, Monsieur Fidèle Ayou, vous êtes de la résolution des conflits. Pensez-vous que la piste que vient de donner Clément Kankou, elle est idéale?
Oui. Je crois que le thème qui ressort ici de nous tous, nous sommes en train de dire la même chose. Et que le Congo n'a pas les moyens d'implémenter cet accord. L'accord est très très grand. Il n'a pas fallu que cette guerre commence. Le gouvernement n'est pas à mesure, ne contrôle pas l'intérieur du pays à toute sa totalité. Donc il y a manque de moyens que le gouvernement n'a pas. Et même s'il en a, l'armée. C'est pour cela qu'on a parlé de réformes. Or, quand on parle de réforme de l'armée, ça touche à des questions de souveraineté. Faut-il réduire ou faut-il augmenter? Quand vous augmentez le nombre de votre armée, vous faites peur aux autres pays. Donc, il y a la question de pays voisins. Donc, nous avons souligné que le pays voisin ne nous aide pas, parce que dans cet accord, si nous avons eu 6 points à implémenter, les pays voisins en ont eu 7. Mais dans ces 7-là, ils n'ont pas prouvé qu'ils sont à mesure de montrer la bonne foi de dire, écoutez, nous aidons le Congo en prenant nos rebelles qui sont réfugiés au Congo et nous les acceptons. Donc ça, c'est la grande difficulté de cet accord. L'autre point que nous soulignons ici, c'est Au niveau du Parlement, je ne sais pas les autres amis qui sont là, qui connaissent mieux peut-être. Est-ce que le Parlement, depuis cet accord, a-t-il voté une loi de réforme? Parce que, à mon avis, je n'ai pas lu quelque part qu'il y a eu une loi au niveau de la commission PAJ sur les réformes. Donc, mais ça doit passer au Parlement. Mmh. Et le Parlement, je ne crois pas que le Parlement a pris une seule législation ou une loi pour l'implémentation de cet accord. C'est resté au niveau politique, au niveau de cet accord. Nous croyons que maintenant que nous tous, même au niveau de la présidence actuelle, on réalise que cet accord doit passer par le Parlement pour que le Parlement donne au pays ou articule
des
une
instruments
loi
juridiques
qui va donner au gouvernement le moyen de sa politique.
Mmh. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Fidèle Ayou Loumeya, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba. Merci et à très bientôt. Voilà. Alors, je reviens à vous, pasteur Madifouta. C'est vrai, on a suivi les uns les autres, beaucoup d'appréhension et beaucoup d'orientation également. Alors, comment on peut aller soit dans leur sens ou peut-être réexpliquer encore les choses?
Oui, je pense que tous les auditeurs à les écouter, et nous sommes d'accord pour que cet accord soit contextualisé. Contextualisé dans ce sens qu'il faut l'adapter. Et l'adaptation aujourd'hui, devant moi ici, il y a ce que nous appelons la feuille de route pour la pacification et la stabilisation de notre pays. Le mécanisme national de suivi, avec le coordonnateur actuel que je salue, son Excellence Ibalanki, a mis en place et venait de mettre, n'est-ce pas, en œuvre, à concevoir une feuille de route juste qui s'adapte par rapport aux axes que comporte cet accord.
Mmh.
L'axe sécuritaire, l'axe réforme institutionnelle, l'axe démocratie, l'axe économique.
Mmh.
Alors, si nous essayons de l'adapter, le Congo peut espérer même à faire face à ce que nous voulons mettre sur le dos de nos voisins. C'est vrai, ils ont une part de responsabilité. Parce que quand vous partez en Ouganda, nous étions là-bas en 2015.
Mais pas 100%.
Vous partez en Ouganda, au Rwanda, au Burundi et en Tanzanie. Vous ne trouverez pas le mécanisme national de suivi, comme il avait été décidé à Addis Abeba. Il n'y en a pas. C'est pour dire qu'ils accordent moins d'importance par rapport à cet accord. Ils disent que c'est une affaire des Congolais. Vous comprenez? Et là, je suis d'accord avec nos auditeurs pour dire que cet accord, pour essayer, n'est-ce pas, de responsabiliser davantage et d'interpeller davantage le pays voisin, il faut essayer de les contextualiser. Dans ce sens,
mais une application asymétrique ne donnera pas les résultats dans la région.
C'est la raison pour laquelle il faut rentrer au niveau d'Addis Abeba. Nous avons cette opportunité aujourd'hui. Le président de la République, qui est l'actuel président de l'Union.
Et demain d'ailleurs, nous allons faire l'émission sur l'UIA, des réformes amenées dans l'Union africaine.
Il doit maintenant saisir la balle au bon. Vous comprenez? À ce moment-là, nous pouvons mobiliser les pays voisins et la communauté internationale pour dire, voilà, l'accord qui a été signé il y a 8 ans,
on a avancé ou on recule,
voilà, où nous en sommes. Où nous en sommes. À ce moment-là, chacun pourra encore être interpellé et voir dans quelle direction on peut y aller. Mais j'insiste là-dessus, j'insiste encore que au niveau interne, il n'y a pas appropriation, il n'y a pas une volonté politique pour donner des moyens en termes de professionnalisation, par exemple, de la police et de l'armée, des services de sécurité, pour impulser des projets intégrateurs et même des projets générateurs, n'est-ce pas, des revenus. Parce que une des causes de tout ce que nous connaissons à l'Est, c'est la pauvreté, les défis de la démobilisation, tout cela. Ce sont des problèmes internes. Nous ne sommes pas parvenus à résoudre beaucoup de problèmes. En 2016, je me rappelle, je faisais partie de l'équipe qui est allée, n'est-ce pas, évaluer le projet PNUD sur l'impact rapide de tout ça au niveau des territoires de Mambasa. Mmh. Vous comprenez? Mais nous avons rencontré à Bunia dans des quartiers, dans les cadres de la police de proximité, des ex-combattants. Qu'est-ce qu'il nous disait? Il disait, mais si nous n'avons pas du travail, si nous demeurons comme ça sans travail, nous risquons de rentrer encore en brousse. Vous comprenez? Et ça, ce sont des problèmes internes qui ne regarde pas.
Donc ça relance encore le débat sur la problématique de DDR,
voilà,
ou démobilisation, réinsertion.
C'est ça. Il y a beaucoup de milliers d'argent ou de millions, de milliards qui sont versés à l'est du pays pour
est-ce
ça.
Est-ce que l'argent ne se volatilise pas en Ouganda, par exemple, dans les hôtels? Vous, les experts, vous allez, vous mangez, et vous logez dans des grands hôtels.
Je ne vais pas répondre à la place de la conscience de chacun.
Non, parce qu'il y a les messages sur notre page Facebook, déjà dit. Mais il y a beaucoup d'argent qui sort dans les MNS, les CIRGL, vous allez à Kampala, vous vous empiffrez, et puis c'est fini. Et personne ne trouve la solution de paix.
C'est là le rôle du mécanisme même national de suivi. On dit suivi.
C'est d'aller à Kampala, loger dans les grands hôtels.
Oui, il doit évaluer. Et le vendredi, lors des journées organisées par
pour
le 8e anniversaire, le coordonnateur a même, n'est-ce pas, cité le nombre de voyages qu'il a effectués là-bas. Il a
combien de voyages?
Plus de 25, à peu près 25 voyages pour contacter les pays voisins.
Dans le compte des trésors publics. Les trésors publics. L'argent est sorti des trésors publics.
Oui, mais ce n'est pas pour en
faire. Mais quel est le résultat?
C'est ça. C'est la volonté de ces pays-là. Donc, il y a un problème. D'où il faut interpeller les Nations Unies. Mm-hmm. Il faut interpeller les Nations Unies. Parce que le Congo ne dirige pas tous ces pays voisins. Ces pays voisins dépendent, du moins, de la communauté internationale que sont les Nations Unies. Vous comprenez? Le secrétaire général des Nations Unies doit être mis à contribution.
À l'époque, nous avions les leads au niveau des CIRGL. Oui. Oui. Avec professeur Toumbaloba.
Oui, ça, je...
Mais pourquoi nous n'avons pas pu imposer d'imposer la bonne foi des voisins?
Non, il y a un problème. Vous savez ce qui a diminué les conflits en Europe, parce que vous souvenez, Allemagne, France, tout ça, c'était des conflits tout à fait, où il y avait le cycle infernal, là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu ce problème de projet intégrateur. Le jour où le Rwanda, ou le Burundi, ou la Tanzanie, ou l'Ouganda saura que moi j'ai des projets intégrateurs, je fais membre de projet, il faut impliquer les Congo, nous sommes ensemble. Ils ne vont plus alimenter les groupes armés parce que ce sont leurs intérêts qui seront mis aussi, en jeu. Donc, il y a cette dimension-là de développer les projets intégrateurs d'ordre économique pour que les uns et les autres se soient soudés.
Bon, peut-être la loi de libre-échange pourrait apporter quelque chose. Peut-être la loi de libre-échange.
Oui.
Parce que la circulation des biens et des personnes, donc je crois que ça pourrait beaucoup aider.
Oui, espérons-le. C'est pour dire que dans tout ce que nous pouvons dire de l'accord cadre, nous ne pouvons pas non plus réduire cet accord à une seule dimension. Il y a la dimension économique qu'il faut prendre en considération. Et ça joue beaucoup. Et l'histoire de l'Europe, je pense que ça nous renseigne de beaucoup de choses.
Alors, on va prendre Marie-Paul qui est à Kisangani. Marie-Paul, vous êtes là?
Oui, c'est le journaliste. Bonjour aux invités ainsi qu'à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, monsieur le journaliste, il faut quand même qu'on se dise qu'on en a marre avec des discours de victimisation des Congolais. Parce que un État ne peut pas commencer à pleurer comme nous faisons ici. L'État a ce monopole de la contrainte armée. C'est-à-dire que lorsque un État adhère dans une organisation, cet État doit assumer, doit montrer de quoi cet État est incapable. Il n'y a pas de question d'accuser les autres. J'ai entendu les invités, les intervenants, s'acharner sur le pays voisin. Non! Le problème de la RDC, l'insécurité qui a élu domicile, c'est un problème congolais. C'est un problème qui est entretenu par nous-mêmes parce que, vous savez, dans cette organisation dont il est question ici, il y a toutes les prérogatives qui donnent mandat aux États membres de pouvoir, bien entendu, assurer la sécurité de leurs frontières, la sécurité de leurs biens et services et leurs personnes. Mais qu'est-ce qui fait que la RDC soit toujours un maillot faible? C'est parce que il n'y a pas réellement une responsabilité de notre part. Mmh. Est-ce que vous pouvez imaginer, si nous allons dans l'aspect intégrationnel, vous vérifiez les aspects d'intégration ne sont même pas, il y a un dialogue toujours, un dialogue de sourds, un dialogue de méfiance. Aujourd'hui, si vous demandez aux Congolais, Combien de Congolais aiment que les Rwandais, les Ougandais cohabitent avec eux? Les Congolais diront non. Et les Rwandais, même si, parce qu'on a été au Rwanda, vous allez voir que ces gens-là, en dépit des dons démêlés, en dépit des noms divergents, mais lorsqu'un Congolais va là-bas, il est considéré. Mais c'est, nous, nous avons la méfiance. Et devant cet aspect des choses, l'intégration est déjà difficile. Parce que l'intégration, si nous devons l'entendre comme l'autoconsommation. Et dans, il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées au Rwanda qui ne sont même pas connues de la RDC, alors que nous sommes statués, nous sommes sous une organisation qui est aussi bien politique, économique que culturelle. Et tout ça, moi, je pense que nous devons cesser avec le discours de victimisation. Nous devons plutôt nous assumer parce que
merci
nous
beaucoup.
Sommes un État.
Voilà.
Nous devons assurer la sécurité. Nous devons réformer l'armée. Nous devons refonder notre économie.
Merci.
Aujourd'hui, ce n'est pas les Rwandais. Ce n'est
voilà.
Pas les
merci beaucoup, Marie-Paul. Merci beaucoup Marie-Paul. Alors Christian, en une minute aussi, on va vous accorder la parole avant de retrouver notre invité pour conclure cette émission. Alors Christian, vous avez la parole.
Merci J.R. Bonjour.
Soyez précis et concis comme ça on va.
Cet accord a connu un problème ou une difficulté de désordre. Le premier ordre, c'est d'abord l'ordre national ou interne, et le second ordre, c'est l'ordre international. Et donc au niveau interne, cet accord a connu des difficultés beaucoup plus basées sur la politique nationale du pays. Et donc nous avions été dans une société à pyramide renversée, d'où il y avait, au lieu d'avoir des institutions fortes, mais nous avions des hommes forts. Donc voilà pourquoi le fait d'avoir des hommes forts en lieu de des institutions fortes, cela a fragilisé notre capacité sur le plan externe pour pouvoir démontrer de quoi que nous étions capables. Étant donné que la diplomatie Jérôme est beaucoup plus axée sur les rapports de force. Et donc, cet élément déclenche automatiquement la force exécutoire d'un accord international. Et donc, à partir du moment où cette dynamique interne que nous avions dit, l'ordre interne faisait déjà défaut, automatiquement, le fait auquel de notre faiblesse interne se faisait automatiquement sentir sur le plan externe. Mmh. Mais sur le plan interne, oui, j'y ai.
Allez-y rapidement parce que vous n'avez qu'une minute.
Ah ok, oui. Et sur le plan externe, et donc déjà à partir du moment où nous avions sur la balance, nous n'avions pas beaucoup pu se peser, voilà pourquoi ces effets se sont fait sentir. Mais au-delà de ça, nous pouvons également relever cet élément sur l'animus nécandi qui caractérise toujours nos voisins. Et donc, si nous étions souples, nous pouvions, comme nous vendons l'électricité à l'Afrique du Sud, nous pouvions les coincer afin de faire appliquer l'accord. Si l'Afrique du Sud n'était pas partie prenante, mais nous pouvions les coincer, lui dire, voilà, nous allons vous couper l'électricité. Si vous ne coincez pas au Rwanda d'appliquer l'accord, nous pouvons agir de cette manière-là. Mais à partir du moment où, sur le plan interne, nous n'étions pas forts, il n'y avait pas possibilité pour pouvoir user des certaines forces pour imposer, voyez-vous, c'est le mot qui convient, pour imposer l'applicabilité de l'accord.
Et donc, voilà, ce que nous devons beaucoup. Faire,
c'est d'abord nous reconstituer sur le plan interne
et de partir sur de nouvelles bases.
Merci
beaucoup. Et l'Éloquois, nous nous excusons, on ne saura pas vous accorder la parole parce que l'État nous fait défaut. On va accorder plutôt la parole à notre invité, pasteur Emery Madifouta. Nous avons suivi les uns les autres, c'est vrai. On peut retenir deux choses, que l'accord global est encore, pardon, l'accord cadre d'Addis Abeba est encore d'actualité et qu'il va falloir s'en approprier, disons, au niveau national. Avec des responsables institutionnels.
Exact, vous avez bien dit, et c'est ça la conclusion. Donc l'accord cadre est encore d'actualité, son contenu. Si nous mettons ça en œuvre, vous allez voir que le pays pourra décoller. Et Mme Robinson, l'ancienne envoyée spéciale dans la région des Grands Lacs, a appelé cet accord l'accord de l'espoir. Cet accord reste encore un accord de l'espoir. Et avec la feuille de route que venait de mettre, n'est-ce pas,
Ibaranki,
les coordonnateurs que nous saluons en passant,
les MNS,
je pense
si l'accord est encore d'actualité, la présence des MNS est justifiée.
Oui, ça se justifie et que le MNS quitte les bureaux climatisés pour aller au sein des sectoriels. Parce que le gouvernement qui viendra demain ou le lendemain.
Parce qu'il a une capacité d'alerte. Mais voilà. En quoi il alerte?
Oui.
Combien d'alertes?
Oui. L'alerte consiste à cette évaluation-là. Voilà. L'armée, qu'est-ce qu'on a donné comme financement?
Quelle est l'évaluation faite par MNS?
Mais c'est ça la question. C'est ça la question.
Vous étiez à la célébration du 8e anniversaire.
Oui, nous étions là.
Qu'est-ce que c'était dit?
Le MNS a fait un travail d'abord d'étude. Il devait étudier parce que c'est une nouvelle équipe par rapport à l'ancienne.
Est-ce qu'il ne reconnaît pas sa défaillance, son échec?
Non, je ne peux pas parler ou admettre en termes d'échec. Il n'a pas échoué.
Les difficultés plutôt.
Les difficultés. Oui. Parce que le ministère sectoriel ne sont pas financés par rapport aux réformes. Mmh. Les moyens n'ont pas suivi. Et ils viennent d'embrasser ça. Vous comprenez? Alors, deuxièmement, au niveau des pays voisins, ils ont fait autant de voyages pour essayer, n'est-ce pas,
de convaincre
les voisins. Et au niveau interne, vous avez vu le milicien de la FRPI, n'est-ce pas, qui ont signé quand même. Hein, ils ont signé quelque chose.
Avec Thomas Lubanga qui est allé.
Avec Thomas Lubanga, tout ça. Ce sont quand même...
C'est dans l'actif.
Oui, c'est dans l'actif. Mais maintenant, il faut qu'ils prennent les choses avec le deux bras, comme on dit. Comme quelqu'un prendrait un bébé, n'est-ce pas, pour le protéger. Donc, si le mécanisme national de suivi quitte son bureau climatisé pour être sur terrain et que le nouveau gouvernement qui arrive met en cohérence les engagements nationaux avec le programme du gouvernement, je pense qu'en interne, nous pouvons espérer par rapport à notre armée, par rapport à notre police et par rapport même à l'accès aux services sociaux de base. Autrement, ça sera toujours un cycle infernal.
Voilà.
Et voilà ce que je peux dire.
Merci beaucoup, Pasteur Emery et Madi Fouta, team leader de la thématique sécurité au niveau du cadre des concertations nationales de la société civile. Merci de nous avoir honoré de votre présence dans ces studios pour discuter, échanger avec les auditeurs ici au pays et à l'étranger. Une fois encore, merci et ça nous va droit au cœur. On vous retrouve demain peut-être dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs sur des réformes majeures à opérer au niveau de l'Union africaine. A très bientôt, monsieur Emery Madi Fouta.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est à moi vraiment d'être reconnaissant.
Merci également à toute l'équipe qui a produit cette émission, réalisée par Marcel Ngombombala et mise en onde par Polydor Bastunga et coordonnées présentées par J.R. Lungembo Lwabung Anji. A très bientôt pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs.